J'aime bien faire mon pain. En fait, c'est simple. On prend de la farine, un peu de beurre ou d'huile, de l'eau ou de la bière, un peu de sucre avec de la levure et une pincée de sel. Pareillement, dans la loi de Moïse, l'Éternel donne les recettes des galettes végétales qu'il désire qu'on lui offre. La majeure partie revient aux prêtres qui peuvent les manger, à condition que ce soit à l'intérieur de l'enceinte du temple. Ils n'ont pas le droit de les emmener chez eux. Quant à la petite part qui revient à Dieu, si elle est brûlée sur l'autel, elle ne veut ni levain, ni miel, mais il faut y ajouter un peu d'encens. Le rituel qui régit toutes les facettes de la vie des Israélites est très pesant. Mais ces innombrables prescriptions sont des moyens pédagogiques par lesquels l'Éternel enseigne à son peuple qu'un abîme les sépare. Il veut amener les Israélites à réaliser leur culpabilité devant lui, à se repentir et à saisir la planche de salut qu'il leur propose. D'abord, en obéissant de cœur aux règles de la loi, et ensuite en recevant leur Messie quand il viendra. Aujourd'hui, aucun rite n'est nécessaire pour venir à Dieu parce qu'ils ont tous été accomplis par le Seigneur Jésus. La seule exigence est de lui faire confiance, de croire en lui et en lui seul, ainsi qu'à l'efficacité de l'œuvre qu'il a réalisée sur sa croix. C'est par le Christ et uniquement par lui que Dieu offre gratuitement la vie éternelle à tout être humain. Je disais donc que dans le livre du Lévitique, Dieu donne la recette pour confectionner les offrandes végétales consumées par le feu. Pour la fête de la Pentecôte, les Israélites devaient faire une offrande végétale à l'Éternel en signe de gratitude pour ses bienfaits. Ces galettes étaient cuites avec les fruits des premières récoltes et contenaient du levain. Par contre, elles ne pouvaient pas être brûlées sur l'autel. Quand je dis que ces règles sont compliquées, lourdes, encombrantes et pénibles, je ne plaisante pas. Je continue maintenant à lire dans le second chapitre du Lévitique avec la suite des recettes. On salera toute offrande qu'on apportera. On ne mettra jamais de mettre du sel, qui représente l'alliance conclue par ton Dieu. Contrairement au levain, qui par son action altère les autres ingrédients, le sel a un effet conservateur et empêche la corruption de s'établir. Le sel relève aussi le goût des aliments et, dans ce sens, il représente quelque chose de substantiel et de sérieux. À cette époque, on partageait le sel avec l'hôte que l'on recevait. Il symbolise le lien solide qui désormais les unit. Pour cette raison, de toute antiquité, en Orient et aujourd'hui encore chez les Arabes, le sel est employé dans les cérémonies qui accompagnent la conclusion d'une alliance. L'expression alliance de sel signifie qu'elle est inviolable et est comme le sel qui est pratiquement indestructible car c'est un produit de composition chimique très stable. Je continue jusqu'à la fin du chapitre 2. Si on apporte à l'Éternel une offrande des premiers épis de la moisson, on présentera des grains qu'on aura broyé après avoir grillé les épis au feu pour cette offrande. Vous y verserez de l'huile et vous mettrez de l'encens dessus. C'est une offrande. Le prêtre brûlera comme mémorial une partie du grain et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu pour être offerte à l'Éternel. Comme les premiers-nés, les premiers produits de la terre, appelés les prémices, appartiennent à Dieu. Ici, comme souvent, la partie représente le tout. La plus grande partie des premiers épis, n'était pas brûlée, mais revenait au prêtre qui la consommait. Il fallait bien qu'il vive. Les épis grillés et broyés sont une nourriture très appréciée des Orientaux. Une fois rôtis, ils sont froissés, puis grossièrement moulus. Et c'est sous cette forme qu'on les mangeait et les offrait à Dieu. Toutes ces offrandes strictement réglementées pour le service du culte correspondent ainsi à la façon courante des Israélites de les préparer pour eux-mêmes, car elles font partie de leur nourriture habituelle. Comme je l'ai dit, ces offrandes sont l'expression du sentiment de reconnaissance de l'Israélite à l'Éternel pour ses bienfaits. Il lui rend hommage avec le meilleur des aliments et sous la forme dont il s'en nourrit lui-même. En agissant ainsi, il fait en quelque sorte de l'Éternel son hôte, qui de son côté accepte l'offrande qui lui est faite. Cependant, Dieu en attribue la plus grande partie à ses serviteurs, les prêtres sacrificateurs. Mis à part les premières récoltes d'épis, les offrandes végétales, qui étaient des dons volontaires, étaient toujours constituées de fleurs de farine, c'est-à-dire le meilleur de ce qu'il y avait de disponible. Cela fait penser à Dieu, qui, en donnant son Fils au monde, a lui aussi partagé avec la race humaine ce qu'il avait de mieux. Lui, il rappelle le Saint-Esprit, l'encens et la bonne odeur de la vie terrestre du Christ. Le sel est un signe d'alliance, et l'absence de miel et de levain signifie que le Christ n'était ni mondain ni profane, mais saint et consacré à Dieu son Père. En comparant la relation d'Israël envers l'Éternel avec ce qui avait cours dans la région du croissant fertile et au Proche-Orient ancien, on pourrait penser que ces offrandes sont l'équivalent du tribut du peuple vassal à son suzerain. Mais le texte indique que seule une toute petite partie de ces offrandes est consumée par le feu. Lorsque Jésus-Christ s'est offert lui-même pour expier les fautes de tous ceux qui croiraient en lui, il accomplissait la fonction de l'offrande. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « Les grands prêtres sont obligés d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Jésus-Christ n'en a pas besoin, car il a tout accompli une fois pour toutes en s'offrant lui-même. » Nous arrivons maintenant au chapitre 3 du Lévitique, qui va développer les sacrifices dits d'action de grâce. Ils ne sont pas obligatoires, comme les holocaustes ou d'autres dont il sera question plus loin. Ils sont offerts par ceux qui sont déjà en paix avec Dieu et dans le but de communier avec lui. Ainsi qu'au moment de la fête de la Pentecôte. En offrant un sacrifice d'action de grâce, l'Israélite désire simplement s'approcher de son Dieu avec qui il veut établir une relation personnelle. Dans le contexte de la Nouvelle Alliance, l'apôtre Paul écrit « Ainsi, il, Jésus, est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches, car, grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père, par le même esprit. » Il y a trois sortes de sacrifices d'action de grâce. Celui de la reconnaissance, qui est offert pour une bénédiction inespérée ou une délivrance que Dieu a accordée. Le sacrifice d'acquittement suite à l'exaucement d'une demande accompagnée d'un vœu. Enfin, celui de l'offrande volontaire tout court, qui exprime l'affection de l'adorateur pour Dieu à cause de leurs bienfaits en général, sans reproche, sans rapport avec une bénédiction spécifique. Ces actions de grâce étaient possibles parce que la paix et la réconciliation entre l'Éternel et son peuple avaient été scellées par des sacrifices sanglants obligatoires. sous la nouvelle alliance, c'est par la croix du Christ que la paix est scellée. L'apôtre Paul écrit « Dieu a voulu par Jésus-Christ réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. » Aujourd'hui, il existe deux sortes de paix. La réconciliation, dont je viens de parler en citant le passage de l'apôtre Paul, et la communion dont parlait Jésus à ses disciples quand il leur a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Il y a donc deux sortes de paix avec Dieu. La réconciliation, parce que la justice divine est satisfaite, et la relation amicale et filiale entre le Créateur et sa créature. De la même manière que nous avons les quatre évangiles dans le Nouveau Testament, pour bien comprendre la personne et l'œuvre de Jésus sur la terre, le livre du Lévitique décrit plusieurs types d'offrandes qui préfigurent chacune à sa façon une facette de la personne de l'œuvre du Christ. Je commence à lire le chapitre 3. Si on offre un sacrifice de communion en tête de gros bétail, mâle ou femelle, on offrira un animal sans défaut à l'Éternel. On posera la main sur la tête de la victime avant de l'égorger à l'entrée de la tente de la rencontre. Les prêtres descendants d'Aaron aspergeront de son sang tous les côtés de l'autel. Ici encore, il s'agit de réglementer un genre de sacrifice qui existait déjà depuis la plus haute antiquité. Mais ce n'est qu'une approximation très sommaire qui sera complétée plus loin dans le livre avec davantage de détails. Les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce avaient plusieurs points communs. Dans les deux cas, victime sans défaut, imposition des mains, immolation et aspersion du sang tout autour de l'autel. La victime peut être une tête de gros bétail, un ovin, comme une chèvre par exemple, en fonction des ressources de l'adorateur. Mais ce qui distingue le plus les actions de grâce des autres sacrifices est qu'ils se terminent par un repas auquel participe celui qui a fait l'offrande, ainsi que tous les membres de sa famille qui sont rituellement purs. À cette particularité s'ajoutent quelques différences secondaires. Dans les sacrifices d'action de grâce, les oiseaux étaient exclus parce que ce sont des offrandes trop petites pour servir d'aliment ensuite. Les femelles, vaches, brebis ou chèvres sont agréées. Rien n'est stipulé concernant l'âge de la victime. Au lieu d'être brûlée tout entière, celle-ci est divisée en trois parts. Seule une partie de la graisse est brûlée en offrande à l'Éternel. C'est la part qui lui revient. La poitrine et la cuisse droite sont aussi offertes à Dieu, mais données par lui à ses serviteurs, les prêtres sacrificateurs. C'était leur part. Tout le reste était consommé par l'adorateur, sa famille et ses amis. L'action de grâce est le seul sacrifice dont le propriétaire peut manger la viande. Ce repas de fête représente la communion dans la présence de Dieu réconciliée avec l'adorateur. Ce sacrifice accompagnait souvent les holocaustes quotidiens, ceux du matin et du soir, pour les raisons pratiques. Ainsi, lors des grandes festivités prescrites par la loi, des milliers d'animaux étaient offerts et consumés par les fidèles. Au moins, ce qu'on peut dire des Israélites, c'est qu'ils savaient faire la fête. Cela dit, lorsque l'adorateur a les moyens d'offrir une bête de gros bétail, le taureau est le premier choix parce qu'il préfigure l'aspect serviteur du Christ. C'est un animal domestiqué et utilisé pour porter des charges et travailler dur dans les champs. À cette époque, il représente le transport et le commerce. Le taureau était à la fois au service de l'homme et ses amis. Cela ne veut pas dire que sur terre Jésus était le valet de l'homme, mais il est quand même venu en tant que serviteur, obéissant en cela à son Père céleste. Je continue le texte. De ce sacrifice de communion, on offrira à l'Éternel, en le consumant par le feu, la graisse qui recouvre les entrailles et toute celle qui est attachée aux deux rognons et la graisse qui les enveloppe et qui couvre les flancs, ainsi que le lobe du foie qu'on ôtera avec les rognons. C'est l'Israélite lui-même qui remet au prêtre de service les morceaux qui composent la part de l'Éternel et qui doit brûler. Il y en a quatre sortes. La graisse qui entoure les entrailles, c'est une masse très poisseuse qui s'étend de l'estomac jusqu'aux intestins et les recouvre d'une couche très épaisse, surtout chez les mammifères ruminants. Puis il y a la graisse qui s'attache aux entrailles formant une appendice aux intestins inférieurs. Puis les deux rognons et la graisse très abondante qui les enveloppe et qui s'étend jusque dans la région orbilicale. Et finalement, le prolongement toujours très gras s'étendant du foie jusqu'au rognon. En offrant toutes ces graisses à l'Éternel, on obéit à la règle qui est énoncée plus loin et qui est « Toute graisse appartient à l'Éternel. Cette graisse qui devait être entièrement brûlée sur l'autel ne comprenait pas ce que nous appelons le gras et qui en fait la cellulite, c'est-à-dire ce qui est l'extérieur, immédiatement sous la peau, et qui est intimement lié aux muscles. Certains d'entre nous aimeraient bien s'en débarrasser parce que non seulement c'est lourd et encombrant, mais ce n'est pas très joli sur la plage. La graisse intérieure, dont parle ici le texte, est l'essentiel de ce qui est consumé par le feu. C'est ce que l'Éternel considère de meilleur et qui lui est offert en sacrifice. Cela peut sembler un peu curieux, mais symboliquement, on peut considérer que la graisse de l'animal représente l'âme et l'être humain, cette partie de notre être qui doit être consacrée à l'Éternel. C'est bien la partie de l'homme souvent appelée cœur dans les Écritures, qui compte le plus pour Dieu. Ce qu'atteste un passage de l'Ancien Testament que je cite. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je continue le chapitre 3 du Lévitique. Les descendants d'Aaron font brûler la graisse sur l'autel par-dessus l'holocauste déjà placé sur les bûches qui sont sur le feu. Ce sera un sacrifice consumé par le feu, dont l'odeur apaise l'Éternel. Celui qui offre un sacrifice d'action de grâce y joint habituellement un holocauste. Si par contre il veut l'offrir seul, alors le prêtre lui demande souvent, pour des raisons pratiques, de l'offrir en même temps que l'holocauste obligatoire du matin et du soir. Comme tous les autres sacrifices, cet holocauste quotidien a valeur d'expiation des fautes, car c'est un sacrifice consumé par le feu dont l'odeur apaise l'Éternel. Cette phrase, qui revient souvent, peut nous sembler curieuse à lire et à entendre. Elle est répétée afin de marteler constamment dans l'esprit de ceux qui veulent bien écouter que la culpabilité du peuple de Dieu, moi compris, exige un sacrifice perpétuel. Mais comme je l'ai déjà dit, les sacrifices d'animaux couvraient le péché, mais jamais les ôtaient. Un tel système ne pouvait donc pas durer indéfiniment. Par contre, la valeur rédemptrice de la mort du Christ est éternellement définitive. Il est mort une fois pour toutes. Il n'y a rien à ajouter et ce sacrifice est valable sur la terre entière. 7 jours sur 7, sans interruption, 365 jours par an. Je n'aime pas trop ramener le mérite infini du sacrifice de Jésus à des notions bassement terre-à-terre, mais au moins, sous cette forme, il est facilement compréhensible. Je continue. Si c'est du petit bétail qu'on offre en sacrifice de communion à l'Éternel, on offrira un mâle ou une femelle sans défaut. Si l'on offre un mouton en sacrifice, on l'apportera devant l'Éternel. Ce sacrifice ressemble en tout au précédent, sauf en ce qui est dit un peu plus loin de la queue. Les moutons de Syrie et d'Afrique ont une queue très grosse et tout enveloppée d'une excroissance graisseuse qui, chez certaines espèces, pèse 8 kilos, voire même plus, de sorte que quelquefois, on la place sur une planchette munie de roulettes qui ressemble à un petit chariot et qui est attelée à l'animal. Dans le sacrifice consumé par le feu, cette queue très grasse est considérée comme le meilleur morceau pour l'Éternel. L'agneau était le premier choix du menu bétail. Généralement, sacrifié à l'âge d'un an, il pouvait cependant être remplacé par un bélier. L'agneau est sans aucun doute l'animal qui représente le mieux Jésus-Christ. D'ailleurs, lorsqu'au tout début de son ministère, il fut introduit au peuple par Jean-Baptiste qui a déclaré « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde ». Jésus est comparable à un agneau pour plusieurs raisons. Il est doux, inoffensif et donc facile à sacrifier. À ce sujet, je rappelle un passage du prophète Ésaïe qui est très parlant. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau, mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un mot. De plus, un agneau dépend entièrement du berger pour survivre. Tout comme Jésus, qui s'en remettait à son Père en toutes choses. Finalement, dans le livre de l'Apocalypse, le dernier du Nouveau Testament, Jésus apparaît à 2 reprises sous la forme d'un agneau, une fois comme victime, ce qui correspond à sa première venue sur terre, et la deuxième fois comme conquérant, ce qui sera le cas quand il reviendra pour prendre possession de son royaume par la force. Je cite ces 2 textes. Alors je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Puis je vis l'agneau ouvrir le 6e sceau, et il y eut un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une toile de sac. La lune tout entière devint rouge comme du sang. Il criait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau. » Le tout premier sacrifice offert par l'homme à son Créateur fut celui d'Abel, qui offrit un agneau de son troupeau. Bien qu'aucun texte ne le précise, lorsque Dieu habilla Adam et Ève de peaux d'animaux, il y a de fortes chances qu'elles provenaient d'agneaux. Ce sont ces bêtes douces et sans défense qui furent les premières créatures à payer de leur vie de péché d'Adam et d'Ève.